Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce numéro de Métropolez-vous, un des derniers de l'année 2020 que nous verrons se finir sans trop de regrets, je pense. Lorsqu'une année se termine, il est de coutume de faire un bilan et d'envisager les perspectives pour la suivante. Concernant 2020, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de secteurs d'activité qui vont tirer un bilan favorable de l'année, sauf sans doute les producteurs de masques chirurgicaux et les entreprises de commerce en ligne. Pas besoin de rappeler que les domaines de la restauration, de l'hôtellerie et de la culture payent un lourd tribut à la situation actuelle. Il est un autre secteur qui a subi un gros coup d'arrêt, notamment lors du premier confinement au printemps, c'est celui de l'aéronautique. La métropole toulousaine est évidemment très concernée et très touchée par cet arrêt brutal, d'autant plus qu'il a été précédé d'années plutôt fastes. Nous allons essayer de faire le point au cours de cette émission, de vous proposer un état des lieux le plus honnête possible afin 2020, avant d'envisager l'avenir, celui-ci reste encore très incertain, difficile de faire des pronostics, on ne sait pas vraiment quand nous pourrons dire que la crise sanitaire est derrière nous. Ce numéro est donc consacré à la situation et aux perspectives 2021 de l'industrie aéronautique métropolitaine et de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Et pour faire le point et envisager l'avenir, j'ai la chance de recevoir une véritable experte du domaine qui nous intéresse aujourd'hui, Agnès Plagneux-Bertrand, vice-présidente de Toulouse Métropole chargée de l'aéronautique, du spatial et des zones aéroportuaires. Bonjour madame, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes également adjointe au maire de Toulouse et vous êtes une nouvelle élue, une nouvelle venue en politique. On va donc prendre quelques instants, si vous le permettez, pour que nos auditeurs fassent mieux connaissance avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre parcours professionnel et les raisons de votre engagement politique sur la liste de Jean-Luc Moudenc?
Alors merci de m'inviter. Donc je suis ingénieure à l'origine. Voilà, j'ai fait une formation scientifique. J'ai travaillé dans des grandes multinationales, notamment américaines. J'ai monté une société dont une partie est à Toulouse d'ailleurs. J'ai travaillé dans une collectivité aussi. Voilà, c'était le hasard de la vie. Je me suis trouvée au bon endroit au bon moment parfois, donc ça m'a rendu service. Et ensuite j'ai travaillé chez Airbus où j'ai présidé la filiale qui s'occupait de l'avion électrique. Et parallèlement j'ai présidé le pôle Aerospace Valley pendant 6 ans. Donc voilà, c'est un secteur effectivement que je connais bien, que j'affectionne particulièrement. Je suis très contente de pouvoir être près de tous ces acteurs. Alors la raison pour laquelle je me suis engagée en politique, c'est que j'arrive à un âge maintenant où je n'avais plus d'obligations professionnelles fortes. J'ai encore, je pense, pas mal d'énergie, pas mal de volonté. J'ai beaucoup travaillé dans tout le monde du développement économique d'une manière générale, hein, c'est-à-dire comment donner des capacités de créer de l'activité qui ensuite crée de l'emploi. Je suis assez impliquée dans tous les modèles qui permettent de faire du transfert de technologie, donc qui permettent de faire coopérer le monde économique et le monde de la recherche. Donc tout ça, ce sont des secteurs dans lesquels j'évolue avec d'abord beaucoup de plaisir et j'espère suffisamment de compétences pour apporter quelque chose. Donc voilà, ça a été un choix. Voilà, Jean-Luc Moudenc m'a appelé, je me suis dit oui, tiens, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Et donc, vous êtes aujourd'hui vice-présidente de Toulouse Métropole chargée de l'industrie aéronautique, du spatial et des zones aéroportuaires. En quoi consiste le rôle d'une vice-présidente dans ce domaine-là, dans ce domaine de compétences, sachant qu'a priori, on a affaire à beaucoup d'entreprises privées? Donc, qu'est-ce qu'une collectivité comme Toulouse Métropole peut apporter aux entreprises de ce secteur?
Alors, d'abord, je pense qu'il est très important, compte tenu du poids relatif de ce secteur, d'avoir un élu qui est repéré et qui les écoute, qui les comprend, qui est de leur monde et qui est capable surtout d'interpréter leurs besoins de telle sorte que justement les collectivités au sens large puissent aller dans un sens qui leur permette de se développer convenablement. Si vous avez une entreprise qui voit le long terme, hein, ce qui est le cas de l'aéronautique, hein, il faut bien se mettre dans la tête que l'aéronautique c'est du très très long terme.
Un cycle de production très
long. Ouais. Voilà, des cycles de conception très longs, des cycles de validation très longs. Donc il est important de comprendre où est leur but, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils sont en train de préparer, tout simplement pour qu'ils puissent trouver localement ce dont ils ont besoin pour évoluer, c'est-à-dire à la fois en termes de recrutement, qu'on sache préparer des jeunes, en termes de formation continue, qu'on puisse voilà, trouver les accompagnements nécessaires pour qu'ils puissent recruter. Le jour où ils ne pourront plus recruter à Toulouse, ils partiront de Toulouse. Donc il faut bien être attentif au fait qu'il faut préparer les générations à ce que les industriels puissent ensuite faire leur recrutement. Il faut aussi avoir de la recherche de très bon niveau, et c'est le cas à Toulouse. On a des laboratoires de recherche qui sont au meilleur niveau mondial, pour que, bien évidemment, ce ressourcement technologique, cet adossement technologique, ce partenariat puisse avoir lieu. Il faut bien voir que ces entreprises dont on parle sont des entreprises qui sont multinationales, qui vont chercher la compétence là où elle est. Donc, si elle n'est plus à Toulouse, bien évidemment, ils iront la chercher ailleurs. Et pour eux, ce ne sera pas difficile. Ils sont déjà implantés dans le monde entier. Donc, il est important pour nous d'être près d'eux, de les comprendre, de faire en sorte que leur activité économique puissent se faire dans les meilleures conditions possibles, à la fois sur des aspects d'aménagement, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de que leurs salariés puissent venir travailler, que leurs fournisseurs puissent venir livrer les pièces, que l'aéroport fonctionne, qu'on leur fasse de la place pour pouvoir faire décoller leurs avions. Et tout ça, c'est de l'interaction entre le public et le privé permanent. Et moi, ça a été un petit peu mon chemin de vie, quoi. J'ai fait justement ce lien entre les deux. Donc, c'est des langages que j'espère pouvoir parler des deux côtés.
Alors, il y a aussi le collectif Aerospace Valet que vous avez présidé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce collectif, quelle est sa raison d'être et quels sont ses objectifs ?
Aerospace Valley, c'est donc un pôle de compétitivité. Ça a été une démarche qui a été lancée il y a maintenant presque 15 ans par l'État, qui considérait qu'il y avait des endroits où se concentraient justement tous les ingrédients nécessaires au développement des filières. Donc, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'innovation, dans lequel vous avez la formation, la recherche et les entreprises, en se disant que il faut créer des espaces de collaboration pour que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le futur soit préparé en collaboration avec tous les acteurs concernés, c'est-à-dire que les uns et les autres se comprennent, qu'il y ait des synergies, qu'il y ait des projets de recherche en commun. Ça a été l'ADN de base des pôles de compétitivité, ça a été celui-là, c'est-à-dire c'est de dire il faut que ensemble, en alliant les petites entreprises et les grandes, ça aussi, ça a été quelque chose de très important. Ça a permis des espaces de dialogue indépendants du problème de clients et fournisseurs, qui est bien évidemment un espace important, mais qui ne nous regarde pas, entre guillemets. Si vous avez une entreprise qui court devant en disant, voilà, moi, je vais préparer des matériaux formidables qui vont permettre de faire ci et ça, je vais préparer des logiciels, des choses comme ça. Si vous n'avez pas ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire la chaîne de fournisseurs qui avance au même rythme, le grand sera en avance, aura couru devant parce qu'il a les moyens de le faire. Et puis, quand il va se retourner pour dire, bon, bah, maintenant, allez, on va faire les pièces conformément, il aura largué tout le monde. Donc, il est important de créer ces synergies, ces espaces de synergie et ces espaces de recherche dans lesquels on peut associer petits, grands laboratoires de recherche et centres de formation pour que, bien évidemment, on revient toujours à ça, on forme les gens qui vont pouvoir ensuite mettre en œuvre tout ça.
Il faut beaucoup anticiper, donc, des stratégies derrière.
Surtout dans notre secteur.
Alors, après cette présentation et toutes ces informations, pour poser les bases de notre discussion avant de faire un état des lieux du secteur aéronautique à fin 2020 avec vous, il me semble important de rappeler ce qu'il représente dans la métropole toulousaine. On sait qu'il pèse lourd, mais précisément l'aéronautique, ce serait combien d'entreprises et peut-être plus encore combien d'emplois sur le territoire métropolitain ?
75 000 emplois. C'est considérable. C'est vraiment un secteur économique. Je crois qu'il existe nulle part ailleurs dans le monde une telle concentration d'acteurs dans l'aéronautique et le spatial. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas oublier le spatial, qui est un secteur de pointe, qui promet aussi beaucoup dans le futur. Alors, en nombre d'entreprises, je n'ai pas le chiffre en tête. Ça représente un très grand nombre d'entreprises, un très grand nombre d'emplois, d'emplois directs et d'emplois indirects. Parce que, bien évidemment, il y a ceux qui fabriquent les avions, mais il y a ceux aussi qui font les bureaux d'études, qui sont là en support, et puis il y a tous les acteurs qui font en sorte que toute cette machine-là marche à tous les niveaux, et je pense qu'il faut vraiment les considérer à leur juste place, parce que c'est aussi grâce à eux que toute cette filière fonctionne.
Oui, par exemple les services d'entretien.
Exactement, voilà, tout ça, c'est le gardiennage.
La restauration d'entreprise.
La restauration, absolument, ce sont des secteurs qui sont très touchés d'ailleurs actuellement, il faut bien le dire. Donc effectivement, c'est une filière qui est très très importante, et pour laquelle on était bien évidemment extrêmement fiers. Toulouse est la capitale de l'aéronautique. Hein, on est extrêmement fiers de ça. Et maintenant, on voit aussi que ça induit une certaine fragilité. Hein. On a été touché de façon extrêmement violente par cette crise. Et contrairement à pas mal d'autres secteurs qui, de temps en temps, voient poindre la fin du tunnel, hein, en se disant, bon, bah, ça y est, dès qu'on réouvre, on peut recommencer à faire du chiffre d'affaires. Malheureusement, dans ce secteur-là, comme on est sur des considérations internationales, on voit bien que les trafics aériens ne vont pas reprendre tout de suite. Et même s'ils reprennent, la construction d'avions risque, là aussi, d'arriver bien après ces reprises-là. Donc,
et encore une fois, ce sont des cycles longs, il faut leur rappeler.
Ce sont des cycles très longs, voilà. Hein.
Alors que nous arrivons au terme de cette très pénible année 2020, donc, quelle est la situation de l'industrie aéronautique dans la métropole et de l'aéroport après le confinement du printemps et le reconfinement de l'automne? Où en sont les carnets de commandes de l'aéronautique et le trafic de l'aéroport? Comment tout ça a évolué au cours de l'année?
Alors, je crois qu'il faut justement faire la distinction entre les trois aspects que vous venez d'évoquer. Il y a le trafic de l'aéroport. Alors, le trafic de l'aéroport, là, c'est l'instantané. Le trafic de aérien s'est arrêté. Ils tournent à peu près, enfin, leur bilan, là, récent, disait qu'ils étaient à peu près entre 15 et 20% de trafic, c'est-à-dire à peu près 85% de baisse.
De baisse, quoi. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre.
Voilà. C'est vraiment très, très important. Alors, ils se sont mis en condition de pouvoir passer cette période, ils ont projeté sur les 2 ans qui viennent un trafic extrêmement ralenti, donc ils se sont organisés pour passer cette période en diminuant leurs coûts au maximum. Ensuite, vous avez effectivement la fabrication d'avions. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme c'est une activité qui est particulièrement complexe, il y avait partout ce qu'on appelle des stocks stratégiques, c'est-à-dire qu'il était hors de question pour Airbus d'être arrêté dans la fabrication d'un avion et dans la livraison des avions pour une petite pièce qui vaut 3 francs 6 sous et qui aurait empêché l'avion d'être livré. Donc, il y avait des stocks stratégiques qui correspondaient à peu près à 3 mois de production, pas dans tout, mais dans un certain nombre d'activités. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par consommer ces stocks stratégiques. Donc, ça veut dire que ceux qui produisent les pièces en amont, bah, ils n'ont plus rien à faire, quoi, hein, pour essayer d'être simple.
Tant que ce stock stratégique n'est pas écoulé.
Voilà. Et après, ils reconstituent un stock stratégique, mais compte tenu du fait que l'activité tourne à peu près à 50%, enfin disons, il y a une baisse entre 30 et 50%, mais bon, voilà, pour faire court, et bien évidemment, on reconstitue le stock stratégique, mais la hauteur
à proportion
de 50%. Donc tout ça va dans le même sens et va dans un sens de baisse de l'activité. Vous avez certains fournisseurs qui vous disent « on a déjà produit toutes les pièces » des besoins estimés de 2021.
Oui, donc, ça donne une idée.
Ils ne vont plus avoir grand-chose à faire, si vous voulez. Oui. Or, ils sont obligés de maintenir les usines en route. Parce que malgré tout, il est nécessaire d'être en capacité de fabriquer si le besoin, si la commande remontait. Donc, ils sont quand même très, très durement affectés. Et après, il y a les carnets de commandes. Alors, comme encore une fois, on est dans du temps long, la réservation des avions, pour l'instant, n'a pas bougé. Airbus a même pris des nouvelles commandes cette année. Mais récemment, ils ont annoncé qu'il y avait quelques commandes qui avaient été annulées, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, Airbus disait, moi, mon carnet de commandes n'a pas bougé, c'est-à-dire que les réservations d'avions étaient, pour l'instant, intactes. Donc, on commence à voir une érosion du carnet de commandes, mais qui, pour l'instant, reste assez marginale.
Voilà, pour l'instant, c'est marginal. Qui sont les plus touchés par la situation? On a beaucoup craint au départ de la crise pour ce qu'on appelle les sous-traitants de niveau 3 et 4, les tout petits sous-traitants. Est-ce que vous avez entendu parler de gros plans sociaux dans ces petites entreprises ou carrément de fermeture, de disparition?
Pour l'instant, chez les plus petits, hein, ce qu'on appelle les tiers 2, tiers 3, on n'a pas entendu pour l'instant d'annonces catastrophiques. On entend bien évidemment des annonces de plans sociaux qui sont en cours de négociation, mais tous les acteurs de l'aéronautique sont extrêmement vigilants à la perte de compétences. Donc pour l'instant, ils ont aussi utilisé les outils qui ont été mis à leur disposition, notamment les prêts garantis par l'État, donc ce qui leur permet d'avoir des trésoreries positives. Il y a aussi toute une démarche qui a été financée par l'État, considérant qu'il fallait profiter, entre guillemets, de cette période et surtout ne pas abandonner les activités de recherche et développement. Donc, il y a des financements qui sont arrivés de l'État, qui transitent en termes d'affectation des financements par un groupe de réflexion qui est géré au niveau de notre groupement interprofessionnel qui s'appelle le GIFAS, dans une instance qui s'appelle le CORAC, et qui donc attribue ces financements très conséquents aux entreprises qui doivent mettre en œuvre des programmes de recherche qui vont préparer l'avenir. Donc, tout ça, ce sont des amortisseurs pour éviter que les bureaux d'études se vident, que les compétences clés ne s'évaporent pas. Parce que, encore une fois, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'excellence de l'industrie aéronautique européenne et en particulier toulousaine a mis 100 ans à se constituer. Il faut quand même avoir ce recul-là. Et si on en est là, c'est parce qu'il y a eu des efforts, il y a eu une excellence des industriels depuis tout ce temps-là pour permettre de faire les bons choix, d'avoir des avions performants comme on les a. Et donc, tout ça, bien évidemment, il ne faut pas prendre le risque que ça s'érode, quoi. C'est vraiment
des
vraiment
expériences qui ne s'acquièrent que dans le temps long.
Exactement,
on ne pourra pas les reconstituer du jour au lendemain si on les perd.
Exactement. Quand on a été patron d'un programme avion, on a une expérience que personne d'autre n'a.
Capacité de réactivité, quand il y a des problèmes, de créativité aussi, sans
exactement.
Doute.
Donc, il est important de conserver toutes ces compétences, raison pour laquelle tous ces outils ont permis jusque-là de les garder. La difficulté que l'on a, nous, c'est qu'on est, encore une fois, dans le temps long et on ne prévoit des reprises que pas avant 2023, voire pour certains types d'avions, 2027. Et ça, c'est une sacrée apnée quand même.
Oui, alors j'allais venir justement aux perspectives à court et plutôt même à moyen terme. Quand peut-on imaginer sortir vraiment de la crise sanitaire? Est-ce qu'il est encore trop tôt pour faire des pronostics ou effectivement ce ne sera pas avant 3 ans au mieux? Vous confirmez vraiment que ce ne sera pas avant 3 ans
au mieux? C'est ce que disent les experts. Avant 3 ans. Alors, il y a 2 catégories principales d'avions, enfin 3. Hein. Il y a ATR qui fait des avions un petit peu plus petits, mais qui est touché par la crise comme tout le monde, avec des turbopropulseurs. Il y a après les avions que fabrique Airbus, et il y a en gros les monocouloirs et les bicouloirs. Donc, les monocouloirs, ce sont des avions qui ont plutôt un rayon d'action intercontinental, c'est-à-dire pour rallier les grandes capitales européennes. On fait des vols entre 3 et 4 heures. Et après, il y a les longs courriers qui permettent de faire de l'intercontinental, qui permettent d'emporter plus de passagers, parce qu'il faut rentabiliser les lignes aériennes. Alors, ce qu'il se dit dans la profession, c'est que les avions qui permettent de faire de l'intercontinental, donc des vols de quelques heures, vont démarrer avant les autres, redémarrer avant les autres, puisque on considère, par exemple, qu'en Europe, on va avoir une stratégie de vaccination qui va être relativement comparable. On a les moyens de financer ces campagnes de vaccination. Là où c'est plus compliqué, c'est d'autres pays pour lesquels on ne sait pas vraiment comment va être leur réaction par rapport à cette campagne de vaccination et comment va être la capacité à être sûr qu'on peut voyager d'un pays à l'autre sans recontaminer tout le monde. Donc les monocouloirs vont redémarrer avant les longs courriers. Ça donne des perspectives. Donc la filière s'organise avec ces perspectives-là qui semblent effectivement assez raisonnables.
Qui devrait se préciser tout de même d'ici l'été sans doute.
J'espère que d'ici courant 2021, on aura sans doute une meilleure idée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va démarrer d'abord, c'est les compagnies aériennes. Et il faut bien comprendre que les compagnies aériennes sont quand même très très atteintes. Hein. Elles sont vraiment exsangues. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est pas se jeter sur des nouveaux avions, même si bien évidemment ils sont souvent
beaucoup plus performants. Donc ils vont continuer avec ceux dont ils disposent aujourd'hui.
Ils vont essayer de redémarrer avec les avions qu'ils ont, parce que bien évidemment prendre la possession d'un avion, c'est quand même sortir de beaucoup d'argent. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir vraisemblablement un décalage, même si le trafic aérien va vraisemblablement redémarrer courant 2021, du moins on l'espère. Mais les commandes et les livraisons d'avions vont peut-être attendre un petit peu.
Alors on sait qu'une grosse part du trafic aérien est liée au tourisme, notamment au tourisme intercontinental et long courrier. Qu'est-ce que ça a donné cet été à l'aéroport? Qu'est-ce qu'on a constaté? Est-ce qu'il y a eu un rebond à ce moment-là important? C'est-à-dire que les gens ont vraiment utilisé les lignes aériennes pour se déplacer?
Alors il y a eu effectivement un rebond, c'est ce qu'a constaté l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Un rebond assez important, notamment pour des liaisons que l'on attribue aussi à des regroupements familiaux, des gens qui effectivement ont besoin d'aller voir leur famille, qui correspond à une grande part des gens qui utilisent l'avion. Il faut bien en avoir conscience. Alors après, il y a eu effectivement principalement du tourisme intra-national, c'est-à-dire des gens qui sont allés en Corse, des gens qui sont venus, qui sont allés dans le nord de la France, et Toulouse a été une destination importante aussi. Donc effectivement, les gens ont besoin de voyager. Il ne faut pas non plus imaginer que tout d'un coup, on va rester confiné quand on peut faire autrement.
Je pense qu'ils en avaient très envie en plus.
Exactement. Il y avait un grand besoin de voyager.
À prendre l'avion si nécessaire pour aller voir effectivement des membres de la famille qui étaient très loin. Une chose dont on peut peut-être parler maintenant, on entend beaucoup parler de l'avion vert. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'avion vert et est-ce qu'on est en train vraiment de pour parler un peu vulgairement, de mettre le paquet dessus au moment de cette crise parce que c'est ce qu'il va falloir faire rapidement?
Alors, il faut aussi remettre ça aussi dans le contexte. Ce qu'on appelle l'avion vert, c'est un avion qui est plus respectueux de l'environnement. Donc, en gros, c'est comme une voiture. C'est-à-dire, c'est un avion qui va consommer moins de carburant ou qui va consommer d'autres types de carburants qui sont plus respectueux, qui n'émettent pas de CO2, qui n'émettent pas de gaz susceptibles de contribuer de façon nocive au changement climatique. Donc, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéronautique, depuis toujours, c'est-à-dire que même les avions qui volent maintenant, ont présenté des améliorations extrêmement sensibles dans la consommation des carburants. On fait des moteurs, hein, c'est comme ça qu'on a fait la 320 Neo, c'est comme ça qu'on a fait le 737 Max avec les déboires que l'on connaît, parce qu'on change les motorisations pour permettre justement de faire des économies de carburant très sensibles. Et heureusement, tout va dans le même sens, c'est-à-dire que quand on économise le carburant, bien, on fait des vols qui sont moins onéreux, donc ça permet aux compagnies aériennes d'avoir des meilleures performances économiques également. Donc ça fait déjà un grand nombre d'années que l'aviation est complètement obsédée par l'amélioration de ses performances en consommation de carburant. Alors maintenant, on se dit qu'on peut passer à de nouvelles générations. Donc, qu'est-ce qui est en train de se préparer ? Donc, les grands avionneurs commencent pas, bien évidemment. Moi, j'en suis l'exemple vivant parce que j'ai travaillé sur l'avion électrique. Ils travaillent sur des motorisations électriques hybrides, hein, principalement, notamment pour des avions un peu gros, parce qu'un avion 100% électrique, en l'état actuel des technologies des batteries, c'est quand même un petit peu difficile. Après, on travaille aussi sur des carburants biosourcés, notamment avec du méthane, hein, qui est un gaz que l'on peut produire à partir de déchets, que l'on peut produire sans compromettre les cultures vivrières, hein, parce que bien évidemment, il ne faut pas se mettre à planter des choses qui vont faire du biocarburant et puis qu'après, les gens n'ont plus rien à manger. Ça, c'est vraiment un gros problème, mais je pense que tout le monde maintenant a bien pris conscience de ça. Donc, des carburants biosourcés, hein, qui permettent effectivement d'améliorer de façon sensible cette empreinte environnementale et in fine, effectivement, l'avion à hydrogène qui pourrait être un carburant de substitution avec des vraies difficultés en ce sens qu'un avion à hydrogène, ça méritera de reconfigurer complètement l'avion. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, si vous voulez, imaginer de prendre l'avion tel qu'il est et de lui mettre un réservoir à hydrogène. Vous voyez, c'est complètement un autre avion. Donc,
C'est
une autre conception complètement différente et avec les difficultés que représente l'usage de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, donc, c'est une molécule qui est extrêmement fine, qui s'insinue à peu près partout. Donc il faut reconcevoir les matériaux qui vont permettre de transporter cet hydrogène. Après cet hydrogène, il faut le transporter de façon liquide. Et l'hydrogène liquide, il est liquide à moins de 153 degrés. Donc je ne sais pas si quelqu'un imagine ce que ça représente d'avoir la capacité de faire le plein avec un liquide à moins de 153 degrés. Pour l'instant, ça représente des prouesses technologiques considérables pour lesquelles, évidemment, les gens travaillent. Hein, les centres de recherche dans l'aéronautique travaillent sur ces sujets-là, mais sur lesquels les débouchés
seront
vraisemblablement lointains. Voilà, il faut quand même être conscient du fait que ça représente des marches très importantes.
Alors aujourd'hui, pour reparler de l'avion vert, tout ce dont vous venez de nous parler, comment se positionne Airbus sur ce marché par rapport à la concurrence ? Ils sont très avancés dans les recherches ?
Alors, sur ce sujet-là, bon, moi, je sais qu'Airbus travaille sur ses activités de recherche de façon très très pointue, mais Airbus ne dit pas tout.
Ah.
Ils gardent bien évidemment une partie de leur activité très secrète. Donc voilà, moi je ne peux pas vous en dire vraiment plus. Je sais qu'ils travaillent sur ces sujets-là parce que moi j'étais au centre de recherche, donc je sais qu'il y avait des programmes de recherche sur ces sujets-là. Mais en l'état actuel des choses, voilà, moi je les ai quittés il y a déjà quelques temps. Donc comme tout ça, c'est du temps long, mais ça va aussi vite. Je ne sais pas, c'est à eux de vous le dire, hein, ce qu'ils ont envie de dire, et c'est bien normal. Hein, c'est des aspects voilà, d'avantage concurrentiel sur lesquels, bien évidemment, ils communiquent ce qu'ils veulent bien dire.
On va revenir à Toulouse Métropole, parce que dans ce contexte de crise sanitaire et d'incertitude quant à la reprise, que peuvent faire des collectivités, et notamment Toulouse Métropole, pour accompagner le secteur aéronautique à l'aéroport de Toulouse-Blagnac ?
Alors, nous, notre compétence en matière de répartition des compétences sur les collectivités n'est pas d'aider les entreprises en direct. Hein. Nous n'en avons pas par la loi, nous ne sommes pas dans cette configuration-là. C'est la région qui est chef de file sur le développement économique, mais néanmoins, nous travaillons en étroite collaboration avec la région, hein, de façon quasi quotidienne. Hein. Nous échangeons. La crise est suffisamment importante pour qu'on soit vraiment complètement partenariaux sur ces aspects-là. Alors, nous, on a plusieurs aspects. D'abord, on est un acteur de la commande publique, hein, qui est très important, c'est-à-dire que nous sommes une collectivité qui a un volant d'activité de commande publique qui est très important, et notamment dans le cadre des transports, notamment avec le métro.
Hein. 3000 lignes de métro.
Voilà.
Gros
donc,
marché.
Voilà, ce sont des marchés considérables, plusieurs milliards. Donc, bien évidemment, tout ça va induire des commandes qui peuvent très bien échoir à des entreprises qui font aussi de l'aéronautique, notamment pour les bureaux d'études. Et on essaye vraiment d'être très attentifs attentif au fait que ce soit des acteurs locaux qui répondent à ces appels d'offres. Notre responsable de la commande publique qui est très vigilant, et ça peut faire partie des petites bouffées d'oxygène que l'on peut offrir aux entreprises quand on peut le faire. Ensuite, on a un certain nombre d'outils, notamment dans le cadre de fonds d'investissement sur lesquels on va investir conjointement avec la région pour justement financer les entreprises qui allaient très bien avant la crise. On ne peut pas, vous voyez, aider les entreprises qui allaient déjà très très mal et que malheureusement la crise n'a fait qu'accentuer ce problème, leur problème. Mais des entreprises qui allaient très bien avant la crise, donc qui ont un modèle économique qui est réel et performant, mais qui se sont trouvées touchées en plein vol par la crise. Donc là, on a investi, là, ça va être voté très très prochainement, dans un fonds qu'on appelle un fonds rebond, qui permet de financer ce qu'on appelle des obligations convertibles. C'est-à-dire qu'en gros, on leur donne de l'argent pour leur permettre de financer leur activité, et cet argent il est soit transformé en fonds propres, en capital, soit il est transformé en prêt, c'est-à-dire qu'après ils nous remboursent ou le fonds devient actionnaire de la société. Donc ça c'est un fonds qu'on a constitué avec notre société de gestion régionale qui est l'IRDI, qui a été très réactif et avec lesquels on a vraiment pu construire un outil adapté à tout ça. On a aussi des activités qui consistent à aider les entreprises en rachetant leur outil industriel et en leur louant, donc ce qui leur permet d'avoir une activité, une rentrée de cash importante. Bon, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas encore été actionné, sachant que la plupart des entreprises ont utilisé les outils mis à leur disposition par l'État, comme le prêt garanti par l'État, comme les fonds de financement de recherche et développement dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour l'instant, leur besoin n'a pas atteint ce type de possibilité. Mais voilà, c'est possible, et comme on sait qu'il va falloir attendre un certain temps, on se met en capacité de pouvoir leur répondre, et on est surtout à leur écoute, quoi. Enfin, on les voit quotidiennement pour essayer de voir comment on peut les aider un petit peu au cas par cas.
Alors, pour terminer, je voulais qu'on parle d'un rapport qui a été rendu assez récemment. Ce rapport, c'est Toulouse Territoire d'Avenir, dont les travaux, les réflexions ont été menées par Jean Tirole et Marion Guillou. Je suppose qu'il a été question dedans, notamment évidemment d'activité aéronautique et du spatial. Qu'est-ce qu'ils ont préconisé? Quelles pistes ils ont ouvertes dans ces domaines-là?
Alors oui, ce rapport est très intéressant. On leur a demandé, alors il y avait Marion Guillou présidait et Jean Tirole parrainait ces travaux, mais il y a eu un grand nombre d'experts qu'on peut pas citer là, mais voilà, et on les remercie beaucoup parce qu'ils ont travaillé très efficacement, très rapidement et bénévolement. Donc ils ont travaillé sur tous les secteurs. Donc leur préconisation est de dire que Toulouse a la capacité d'actionner un certain nombre de nouveaux secteurs économiques et que c'est quelque chose dont il faut qu'on s'empare. Et donc on a bien l'intention de le faire, encore une fois en partenariat avec la région, puisque ce rapport avait été demandé par Jean-Luc Moudinque et par Carole Delga. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont fléchées vers le monde de la recherche, puisque on aimerait vraiment beaucoup que Toulouse rallie le groupe des métropoles qui ont obtenu ce qu'on appelle un IDEX, c'est-à-dire en fait une reconnaissance d'excellence dans la recherche, qui est bien évidemment ce que l'on considère pour Toulouse, mais sur lequel on aurait bien envie qu'il soit intégré dans ce groupe-là. Donc il y a une première réflexion autour du monde de la recherche et des universités, et ensuite il y a d'autres secteurs comme le secteur économique, donc sur lesquels il y a possibilités, notamment dans le domaine de la recherche et de la recherche dans le spatial et de le spatial adapté au climat, sur lequel il y a des niches, si vous voulez, d'expertise et de savoir-faire qui pourraient vraiment être renforcées d'après ce que l'on a lu dans le rapport Tirole. Alors il y a d'autres secteurs, notamment dans le secteur de la santé, sur lequel ils préconisent qu'il y a vraisemblablement des choses à développer, ainsi que dans l'agro-agri-technologie, sur lequel ils estiment que là aussi il y a un secteur d'excellence. Alors après, il y a d'autres secteurs sur lesquels moi j'avoue que je connais bien moins, mais je peux les citer. Voilà, ils ont préconisé des choses aussi dans le domaine de la culture et dans le domaine du tourisme, avec un petit peu un fil conducteur qui sont les jeunes, pour lesquels effectivement leur devenir est assez préoccupant. Ils font un petit peu les frais de cette crise. Nos réflexions doivent être tournées vers leur meilleure intégration dans tous ces secteurs-là.
L'heure est arrivée pour moi de conclure cette émission et de vous remercier d'y avoir participé, Agnès Plagne-Bertrand. Merci vraiment de nous avoir apporté tous ces éclairages sur la situation du secteur aéronautique et de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, si cruciaux pour l'économie du territoire métropolitain et même de notre région, disons-le. Une situation difficile, certes, mais nous avons pu voir avec vous qu'il y a de la ressource, des raisons d'espérer une reprise assez rapide lorsque cette fichue crise sanitaire sera enfin derrière nous, même s'il faut bien être conscient que les perspectives 2021 restent incertaines à ce jour. jour. Pour ceux qui s'intéressent de près au collectif Aerospace Valley que nous avons cité au début de cette émission et qui voudront en savoir plus, je signale qu'il existe un site web pour vous renseigner, www.aerospace-valley.com. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.